Nous poursuivons ce soir notre étude de l'Église et après avoir vu la définition d'Église, sa fondation, nous arrivons maintenant à l'importance de l'Église. Bon, il y a évidemment un texte fondamental à partir duquel on est obligé de partir quand on parle de l'importance de l'Église. C'est le fameux texte de Matthieu 16, verset 18, où au moment de la confession de Pierre, Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». C'est la première mention du mot « Église ». Est-ce que quand Jésus parlait ici d'Église, est-ce qu'il avait exactement dans l'idée ce que nous entendons par Église? Je pense que là, on ne peut pas être absolument affirmatif, n'est-ce pas? Et peut-être que l'Église dont Jésus parle ici serait l'Église d'Israël, n'est-ce pas? C'est-à-dire finalement le rassemblement. À partir de là, à partir de la communauté, aura lieu le rassemblement d'Israël. Est-ce que Jésus envisageait dans ce texte, du moins dans un premier temps, aussi le rassemblement des nations? Est-ce que ce n'était pas Israël rassemblé autour de lui? Bon, je pense qu'on ne peut pas trancher cette question, bien évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église ici, le rassemblement, est exactement l'opposé de la diaspora. La dispersion, n'est-ce pas? Et quand nous lisons, par exemple, l'épître de Jacques, ou quand nous lisons la première épître de Pierre, il y a des adresses qui sont tout à fait importantes et tout à fait intéressantes dans ces deux lettres. Nous allons les relire rapidement. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc il y a, en tout cas, l'idée qu'il y a une dispersion, laquelle diaspora, dispersion, diaspora, c'est le même mot, bien sûr, n'est-ce pas, est exactement aux antipodes de la volonté de Dieu, Dieu qui cherche à rassembler. On peut aussi, sur ce texte, discuter de la même manière que sur le texte de Matthieu. Les 12 tribus dont il est question ici, s'agit-il pour Jacques, comme le pensent la plupart des exégètes, d'une façon de parler pour désigner l'Église dispersée sur toute la surface de la terre, et notamment l'Église des païens? Ou bien s'adresse-t-il aux chrétiens juifs? Et plus particulièrement, au-delà de ces derniers, est-ce qu'il n'envisage pas aussi, justement, le rassemblement d'Israël au dernier jour? Car finalement, l'Église, c'est d'abord ça. L'Église, c'est d'abord le peuple d'Israël rassemblé au dernier jour dans la foi en Jésus. Pas l'Église au sens technique du terme, mais on peut se demander si dans Matthieu 17 en particulier, c'est pas à cela que Jésus pense. Puis ensuite, autour de cet Israël rassemblé au dernier jour, il y a les élus des nations. Et c'est pourquoi l'Évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, pour servir de témoignage aux nations, non pas que toutes les nations se convertiront, que tous les païens se convertiront, mais du sein des nations, du sein de chaque nation, quelques-uns des élus, quelques âmes qui seront disponibles à l'écoute de la bonne nouvelle se tourneront vers Jésus, de façon à ce qu'au dernier jour, quand viendra l'heure du salut d'Israël, salut qui sera donc essentiellement ce rassemblement eschatologique des 12 tribus d'Israël autour de Jésus, les élus des nations soient sauvés avec Israël. Ce qui fait dire à Paul que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi il y a constamment, n'est-ce pas, dans la position d'enfant de Dieu, ce double mouvement, le déjà, tout est accompli, tout est déjà là, il y a déjà transformation de la vie, nous verrons justement que c'est la condition première pour faire partie de l'Église. Qui peut faire partie de l'Église ? Ça, c'est un autre chapitre. Et en même temps, il y a le pas encore, n'est-ce pas ? En espérance que nous sommes sauvés. Et quand nous parlons de l'Église, ou quand la Bible parle de l'Église dans les textes les plus anciens, est-ce qu'il ne faut pas voir là une réalité eschatologique ? C'est-à-dire l'idée d'un rassemblement, le dernier rassemblement, lequel met fin définitivement à l'exil d'Israël, à la diaspora d'Israël, et ensuite, parce qu'ils ont reçu l'évangile qui était d'abord destiné à Israël, les élus des nations sont sauvés en même temps et au même titre que Israël racheté. Autre texte qui va dans le même sens, la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, une diaspora, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Intéressant, on retrouve ces mêmes pays dans Acte 2, n'est-ce pas, la naissance de l'Église. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Étrangers et dispersés. Alors là, il y a une nuance très intéressante. Manifestement, ici, Pierre s'adresse à des non-juifs, étrangers et dispersés. Mais en même temps, qui sont élus selon la préscience de Dieu pour qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ et donc qu'ils aient part au salut eschatologique, au salut final qui sera manifesté au dernier jour. Puis ensuite, ça commence tout de suite sur l'espérance, n'est-ce pas ? Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux, etc. Donc il y a cette double vision constamment d'un rassemblement des dispersés d'Israël et des nations, et des élus des nations. Pour ce qui est d'Israël, c'est tout Israël. Pour ce qui est des nations, c'est les élus d'entre les nations. N'est-ce pas ? Et alors, il est très clair qu'au temps de la fin, ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, qui essentiellement est composée des non-juifs, des païens, s'unit, se confond, se joint avec Israël pour n'en faire plus qu'un. C'est évident, n'est-ce pas ? Alors, je crois que c'est très important de dire cela quand nous parlons d'Église, parce qu'il faut avoir une vision de l'Église dynamique, une vision eschatologique. L'Église, c'est le rassemblement au dernier jour. Et pour l'heure, il y a dispersion, étrangers et dispersés. Et alors, quand il y a rassemblement de l'Église dans un lieu, pour célébrer le culte du Seigneur, pour se mettre à l'écoute de sa parole et célébrer la scène. Ceci est une image imparfaite et limitée du rassemblement dernier et ultime qui aura lieu au grand jour du Seigneur et qu'il annonce. Comme le rappelle Paul dans l'institution de la Sainte Cène, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, ça c'est très important. Donc aussi, nous voyons ici que nous sommes aux antipodes de la vision de la diaspora, de la parcellisation, de l'émiettement que nous constatons aujourd'hui, hélas, dans bien des milieux évangéliques. C'est exactement l'inverse. Et le but, nous est-il dit, de cette institution du Seigneur, Éphésiens 4, versets 11 et verset 15, « Faire croître les enfants de Dieu à la mesure de la stature parfaite du Messie dans la foi et dans la connaissance. » Voilà. Et alors, cette croissance, dans la foi et dans la connaissance, conduit justement à la communion, à une intégration les uns et les autres. Le corps, n'est-ce pas, forme un solide assemblage, nous est-il dit dans Éphésiens 4. Pourquoi avons-nous insisté tellement sur toutes ces réalités jusque maintenant ? Parce qu'il faut être honnête et reconnaître qu'il y a un malaise de l'ecclésiologie protestante. Et que ce malaise de l'ecclésiologie protestante, il est encore plus aggravé, encore plus sensible dans les milieux évangéliques. Deuxième raison, parce que ce siècle finissant est le siècle où l'on s'est penché plus que peut-être à aucune autre époque sur les problèmes d'ecclésiologie, parce que ce sont les problèmes d'ecclésiologie qui font problème. Parce qu'on se trouve au XXe siècle avec l'héritage des différentes séparations dues à la Réforme, parce qu'il y a le mouvement œcuménique, et que tous ces éléments font que l'on a été obligé de se pencher, comme on n'a jamais fait jusqu'alors, sur les problèmes d'ecclésiologie. Aussi peut-on dire qu'à notre époque, l'ecclésiologie est le problème numéro un du monde chrétien. Et s'il est un problème, s'il est ce problème numéro un du monde chrétien, c'est parce que justement il y a une crise de l'Église. L'Église est en crise. Or, on a eu beau se pencher théologiquement sur ces problèmes, l'ecclésiologie, on n'a pas l'impression, à la fin du XXe siècle, qu'on ait beaucoup avancé. Et on n'a pas avancé essentiellement parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la définition de l'Église. Parce qu'on n'a pas réussi à cerner véritablement ce qu'était l'Église. Faut-il d'ailleurs s'en étonner ? Paul ne dit-il pas dans l'Épître aux Éphésiens qu'il s'agit là d'un mystère qui ne peut être connu que par une révélation ? Et quand on dit Église aujourd'hui, quand on parle Église, avec les uns, avec les autres, quand on parle d'Église avec des catholiques, quand on parle d'Église avec des réformés, des luthériens, des orthodoxes, des anglicans, même des évangéliques, bien souvent on ne dit pas la même chose. Le même mot a des significations extrêmement différentes. Maintenant, quand nous parlons d'Église avec les catholiques, eux, savent bien ce qu'ils veulent dire. Ils ont une vision de l'Église précise. C'est leur vision de l'Église. En tant que protestants, nous disons que ce n'est pas une vision biblique. mais ils ont une ecclésiologie qui est cohérente. Ça, il faut le reconnaître. Quand on parle ecclésiologie avec des protestants, il n'y a pas d'ecclésiologie cohérente. Et le protestantisme, depuis le XVIe siècle, n'a toujours pas répondu à la question « qu'est-ce que l'Église ?» C'est une question qui restait en suspens. Et c'est la grande faiblesse du protestantisme de notre temps face au catholicisme. Je me souviens de cette interpellation de l'évêque Le Bourgeois à l'Assemblée générale du protestantisme en 1975, qui, s'adressant donc à cette Assemblée générale, disait « Nous aimerions, nous, catholiques, savoir quelle est, à vous, protestants, votre ecclésiologie. » Eh oui, c'est pertinent, c'est logique, comme interpellation. Et alors, précisément, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question, il y a au sein du protestantisme écroulement, faiblesse, caractère artificiel. Et au sein du protestantisme, du seul protestantisme, 300 groupes religieux revendiquent cette appellation d'Église, parfois d'ailleurs pour eux tout seuls, excluant tous les autres de cette terminologie. Alors, on comprend l'importance qu'il y a pour nous d'avoir une idée assez claire de ce qu'est l'Église. Maintenant, ce problème de l'ecclésiologie vient d'un malentendu fondamental. Et c'est précisément ce fondamental malentendu qu'il nous faut d'abord discerner pour pouvoir ensuite rectifier les choses. Le malentendu, c'est l'idée que l'Église doit évoluer au cours des siècles sous la conduite du Saint-Esprit. Seulement, ceci n'est pas biblique. Il y a malaise de l'ecclésiologie, je dirais premièrement, parce qu'il n'y a pas de doctrine de l'Église dans l'Écriture. C'est la première chose à constater. L'Écriture ne donne aucune ecclésiologie. L'Écriture ne nous donne aucun modèle d'Église auquel il faudrait se référer. Ça, c'est une constatation qu'il faut faire. Alors, face à cette réalité, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut dire il n'y a pas de doctrine de l'Écriture, de l'Église dans l'Écriture, parce que Dieu avait laissé au Saint-Esprit le soin de le révéler plus tard par la tradition. Et ça, c'est la vision catholique. La deuxième conception, qui serait la conception protestante, c'est de dire il n'y a pas de modèle unique d'Église dans l'Écriture. C'est donc finalement que Dieu, par le Saint-Esprit, a laissé une grande latitude aux hommes pour organiser l'Église sur finalement les modèles qui leur conviendraient le mieux. Il n'y a pas de modèle d'Église normatif. Mais l'Église doit s'adapter au temps et aux circonstances. Même s'il y a un peu de vrai dans cette affirmation, on sent bien que ça n'est pas tenable bibliquement. Et puis, il y a une troisième conception, troisième interprétation de cette absence qui, en caricaturant un peu, serait plus la vision évangélique, je dirais. C'est de dire il n'y a pas de vision explicite de l'Église dans l'Écriture. Mais peut-être pouvons-nous nous efforcer de trouver un modèle implicite de l'Église. en comparant les textes les uns aux autres et en faisant émerger, justement, une vision de l'Église qui, malgré tout, tout en laissant une certaine latitude, un certain pluralisme à la discrétion des responsables de cette Église pour s'adapter au temps et aux circonstances, mais malgré cela, il y a dans le Nouveau Testament un modèle d'Église qui est normatif pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux, et qu'il faut s'efforcer de mettre en lumière et de dégager, quelque difficile que soit la tâche. Quelque difficile que soit la tâche, car il est vrai que si l'on compare l'Église de Jérusalem avec les églises de Paul, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Ces différences sont-elles dues à une évolution normale des choses ? Sont-elles dues à une vocation différente de ces églises ? Sont-elles dues à la personnalité différente des fondateurs de ces églises ? Les problèmes ne sont pas simples. Les problèmes ne sont pas simples. Alors, l'Église catholique, elle résout le problème simplement. Au temps apostolique, l'Église n'était pas encore formée. Et c'est avec le temps que l'Église va évoluer sous la conduite du Saint-Esprit pour devenir ce qu'elle était, ce qu'elle devait être dans la pensée de son fondateur. Finalement, nous avons là un a priori philosophique, fortement discutable, bibliquement en tout cas, le principe d'Hegel, c'est-à-dire que ce qui est devait être. Les choses sont ce qu'elles sont parce que c'était ainsi que ça devait être, c'était ainsi que Dieu l'a voulu. Si Dieu n'avait pas voulu que les choses soient ainsi, il aurait fait autrement. Donc si nous avons une église pyramidale, centrée autour de Rome, avec un pape infaillible, c'est vrai que ce n'est pas dans l'Écriture. Mais ça s'est fait au cours des siècles. Nous discernons, nous catholiques, là-dedans, la volonté de Dieu. Bon. C'est évidemment très discutable. Et alors, ici, il y a maintenant ce problème de revenir aux sources, qui était celui de la Réforme. Luther pensait que la chrétienté primitive était le critère de la véritable Église. Seulement le problème, c'est que ses successeurs n'ont pas poussé jusqu'au fond la réflexion de Luther. Et ils sont restés finalement dans le compromis que le réformateur avait adopté. Et le problème, c'est justement ce retour aux sources aujourd'hui. Seulement, tout le monde ne veut pas revenir aux sources. Nous comprenons ici qu'il y a un malentendu fondamental. Car finalement, le monde protestant au sens large dira peu ou prou, du moins dans sa tendance, en tout cas la plus évangélique, il faut revenir aux sources. Et le catholicisme dira non, il n'y a pas à revenir aux sources. De la même manière qu'un fleuve ne remonte pas vers la source. Il descend vers la vallée. Alors, le catholicisme n'éprouve pas le besoin de revenir aux sources. Pas du tout. Et c'est là qu'il y a justement une des deux parties qui doit céder. Ou bien alors, sur le plan du principe de base, on dit... Eh bien oui, ce qui est, c'est ce qui devait être. Donc, il n'y a plus à revenir aux sources. On peut s'intéresser au passé comme à l'histoire. Oui, on s'intéresse à l'histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller visiter un musée archéologique, n'est-ce pas ? Ça nous permet de comprendre un peu, mais On ne va pas se remettre à vivre à l'âge de pierre, on ne va pas se remettre à créer des huttes comme les Gaulois, non. C'est un temps qui est dépassé. Et le catholicisme va dire, on ne va pas revenir à l'âge apostolique. On ne va pas revenir aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, etc. Parce que ça, c'était l'Église balbutiement, c'était l'Église enfant. L'adulte ne redevient pas enfant. L'Église est adulte maintenant, c'est fini. Et l'autre protestant dit, non, l'Église a dévié. L'Église n'est pas ce qu'elle voulait, ce que son Créateur voulait qu'elle soit. Et là, nous sommes en pleine erreur, nous sommes en pleine errance. Ce qu'il faut, c'est revenir aux sources. Et comme le disent les théologiens actuellement, notamment, si vous vous souvenez, les deux responsables de l'œcuménisme qui étaient venus nous parler il y a déjà un certain nombre d'années, le père Sicard et puis donc le pasteur Fréchet, ils appelaient ça le noyau dur. Ça veut dire le point où se situe la différence séparatrice entre les églises. Elle est là. La vision de ce que doit être l'Église. Je ne dis pas la vision de ce qu'est l'Église, mais la vision de ce qu'elle doit être. Finalement, il y a de la part du catholique une vision optimiste de l'Église. L'Église est ce qu'elle doit être. Grosso modo, elle est ce qu'elle doit être. Si réforme il y a, ça ne va porter que sur des détails. Et le protestantisme qui dit l'Église n'est pas ce qu'elle doit être. Et il faut une restructuration en profondeur. Et ça, le catholicisme ne peut jamais l'accepter. N'est-ce pas ? Or, comme en face d'une vision de l'Église très structurée, très sûre d'elle-même, le protestantisme n'a rien à proposer, n'a aucune alternative à proposer. Dans ce débat, le protestantisme est perdu d'avance. Et c'est là justement le grand danger de l'œcuménisme dans ce temps, du débat œcuménique. Quand le protestantisme a attaqué sur la justification par la foi, quand il a attaqué sur l'autorité de l'Écriture sainte, il était absolument inexpugnable parce qu'il avait une doctrine cohérente qui était à fond la doctrine de l'Écriture. Et en face de ces affirmations de la Réforme, le catholicisme n'avait d'autre arme que les bûchers, que l'Inquisition, que les galères, etc. C'était un peu court. Mais aujourd'hui, le protestantisme n'a rien d'autre à dire en face de ce qui est le débat de ce temps. Voyez-vous, le débat œcuménique s'est déplacé du XVIe siècle, où il était sur la question de la justification par la foi ou l'autorité de l'Écriture. Il s'est déplacé maintenant sur la question de l'Église. Et là, le protestantisme a le dessous. L'ecclésiologie protestante ou le manque d'ecclésiologie protestante ne fait pas le poids en face de l'ecclésiologie catholique. Et c'est pourquoi, dans le débat œcuménique, la première chose que devrait faire le protestantisme, s'il était un peu conséquent, s'il était un peu clairvoyant, eh bien, ce serait un colloque au niveau mondial, je dirais, pour réfléchir sur l'Église. Et répondre à cette question que les catholiques leur posent, quelle est votre ecclésiologie ? On n'en est pas loin, on n'en est pas là, on en est loin, hélas. Maintenant, le catholicisme a aussi un argument extrêmement fort quand il affirme haut et fort et réaffirme, comme le fait le pape actuel, son ecclésiologie, c'est la notion de l'apostolicité. L'Église catholique, vous en souvenez, nous en avons parlé quand nous avons étudié justement l'Église catholique, était Église, une, sainte, apostolique et romaine. ce titre. Une, ça c'est très disputable, parce qu'il y a d'autres à côté d'elle, enfin elle affirme être la seule. Sainte, Alexandre VI et autres consorts du même ordre, bon. Alors, bien sûr, la réponse est l'Église est sainte, mais pas ceux qui la composent. Bon. Apostolique, bon, romaine, ça va de soi, son centre est à Rome, ça, c'est évident. Apostolique, qu'est-ce que ça veut dire apostolique? Ça veut dire qu'elle est l'héritière de l'Église des apôtres. Elle l'est par une continuité historique. Là aussi, ça pourrait être un peu discuté, un peu, si on voulait pinailler. C'est-à-dire que peut-être que cette revendication de la filiation apostolique, je veux dire historique, serait plus de saison de la part de l'Église orthodoxe. Quand même pas oublier que les pères de l'Église étaient plus des pères grecs que des pères latins. Enfin, ce serait vraiment un peu chercher la petite bête. Mais on peut dire qu'historiquement, c'est effectivement quelque chose qui est difficile à contester. Il y a une continuité. Une continuité. Nous n'allons pas entrer dans le débat de savoir qu'est-ce qui a rendu possible cette continuité. Parce que ce qui l'a rendu possible, c'est essentiellement, beaucoup plus que le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'épée de Constantin et puis de tous les pouvoirs sur lesquels l'Église s'est appuyée ensuite. Pas de problème. La démonstration serait infiniment plus convaincante si, par exemple, comme Israël, l'Église catholique avait survécu dans un environnement hostile, mais ce n'était pas le cas. Elle a réussi ce tour de force à mettre les pouvoirs de son côté, les pouvoirs politiques de son côté, à s'appuyer sur eux. Et à faire en sorte que ses adversaires soient éliminés par le fer et par le feu. Donc, évidemment, la continuité historique se comprend d'une manière très humaine. Et quand les catholiques en tirent argument pour dire, vous voyez, l'Église a survécu pendant 2000 ans, c'est la preuve qu'elle était de Dieu, etc., sinon, bon. Je ne pense pas qu'historiquement, la démonstration soit absolument convaincante. Seulement, il y a là une notion que parfois, en milieu protestant, on a écartée un peu trop vite. Et à la limite, si vous voulez, c'est la position pentecôtiste où, eh bien, si vous voulez, il y a eu l'Église au 1er siècle. Puis, à partir du moment où il y a eu donc l'évolution des pères de l'Église, etc., l'Église a dévié et l'Église a cessé d'être. Pendant 2000 ans, il n'y a plus d'Église du tout. Et puis, soudain, au XXe siècle, eh bien, l'Église a ressurgi sous la forme de l'Église pentecôtiste. Donc une éclipse de 20 siècles de l'Église, et puis, bon, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Jésus, d'ailleurs, le dit d'une manière très claire, n'est-ce pas ? Les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Bon. Alors, quel est le critère d'apostolicité? Ça, c'est toujours quelque chose que les catholiques nous demandent. Quelles sont vos racines? D'où venez-vous? Alors, quand on entre dans ce débat, on est vite en difficulté. Ah, vous êtes évangélique? Ah oui, très bien. Bon, donc, vous êtes issu de quoi? Bon, ben, on est issu des mouvements évangéliques du 17e. Ah oui, d'accord, du 16e, les anabaptistes. Bon, oui, donc c'est la réforme. Et avant la réforme, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant la réforme? Donc vous êtes issu de l'Église catholique. Alors on peut remonter, et là, la parade est facile, c'est de dire, bah oui, et avant l'Église catholique, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Église apostolique. Et nous, on remonte à l'Église apostolique. Ah. Bon. Oui, mais alors, quels sont les chaînons? Par quoi s'est fait la transmission apostolique? Et ça, c'est le grand point fort de l'Église catholique, la transmission apostolique. Seulement, le problème, c'est que l'Église catholique voit cette transmission apostolique sur un plan qui est uniquement juridique. La transmission apostolique, elle se manifeste concrètement dans l'Église catholique par l'imposition des mains aux prêtres et aux évêques, l'ordination. C'est-à-dire que Pierre a reçu de Jésus l'ordination, l'ordre, dans le texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Les 12 ont reçu de Jésus cette ordination. Puis, les 12, Paul par exemple, nous le voyons imposer les mains à Timothée, son successeur. Et Timothée impose les mains à ses successeurs. Et les successeurs imposent les mains aux successeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, de génération en génération. Si vous voulez, c'est une véritable filiation biologique, presque, pour l'Église catholique. Dans le geste d'imposition des mains, il y a, si vous voulez, comme un dépôt qui part du Christ et qui se transmet de génération en génération par les mains de ceux qui l'ont reçu. Ce qui fait que si vous n'êtes pas dans cette tradition apostolique, c'est-à-dire, par exemple, nous autres, les ministres des églises non catholiques ne sont pas reconnus par l'Église catholique comme étant dans la succession apostolique. Parce que la chaîne de la transmission apostolique, par l'imposition des mains de ceux qui l'avaient reçu des successeurs, des successeurs, des successeurs, des successeurs des apôtres, n'est-ce pas, ne joue plus. Il faut qu'il y ait un lien physique, qui est un sacrement dans la vision théologique catholique, par lequel se transmet un pouvoir, par lequel se transmet une grâce. Le sacrement, ex opere operatum, n'est-ce pas, par lui-même, le sacrement opère, confère une grâce, indépendamment de celui qui le donne et indépendamment de celui qui le reçoit. C'est pourquoi, par exemple, le sacrement de l'ordre est irréversible. Tu es prêtre à toujours, n'est-ce pas ? Même le prêtre qui défroque, qui devient criminel, qui devient adultère, qui devient athée, etc., reste prêtre pour l'éternité parce qu'il a reçu le geste de l'imposition des mains apostoliques. Et alors, évidemment, dans le milieu évangélique, on balaye trop rapidement cette question-là parce qu'on dit il pousse trop loin, c'est sûr. C'est pas le lien physique. C'est absurde, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, c'est poussé trop loin, mais quand même. Ceci dit, c'est pas parce que c'est poussé trop loin qu'il n'y a pas quelque chose à prendre. C'est vrai qu'il y a des apôtres et des prophètes de la Nouvelle Alliance, qui ne sont pas les successeurs des apôtres au sens catholique du terme, mais qui persévèrent dans les enseignements. Et c'est là que nous pouvons opposer au catholicisme une autre vision de la succession apostolique, la tradition apostolique. On est dans la succession apostolique, non pas parce que l'on a été au bénéfice d'un geste qui remonte aux apôtres, mais parce qu'on a persévéré dans l'enseignement des apôtres, qui nous a été transmis de génération en génération par ceux qui ont persévéré dans cet enseignement-là. Et à ce moment-là, le débat est tout à fait placé sur un autre terrain. Car alors, la fidélité de la transmission apostolique n'a plus rien à voir avec une institution. Elle n'a plus rien à voir avec une église catholique ou orthodoxe ou réformée ou autre. Elle a à voir, comme le dit l'apôtre Paul, avec des hommes fidèles. Ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est là que, quand les pentecôtistes disent « l'Église a cessé d'exister pendant 2000 ans et puis elle est ressurgie simplement au début du XXe siècle », c'est là qu'il y a quelque chose de tout à fait puéril, je dirais même grotesque. Parce qu'au XXe siècle, le mouvement de Pentecôte n'est pas né de génération spontanée. Il est né parce qu'il y a eu des gens qui ont transmis le dépôt de la foi. Quand je dis le dépôt, c'est-à-dire l'essentiel de la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont transmis toute la doctrine, mais ils ont transmis l'essentiel de la foi. Et à toutes les générations, il y a eu des hommes fidèles. Même au temps de la pire déliquescence de l'Église catholique, même dans le Moyen-Âge, le plus sombre Moyen-Âge, il y a eu des hommes fidèles. Il y a eu des hommes fidèles qui ont gardé le dépôt de la foi et qui l'ont transmis à d'autres. Il y a eu des hommes fidèles qui ont copié fidèlement la Bible dans les monastères. Et parce que ces gens-là ont fait ça, bien, Luther a pu lire l'Épître aux Romains et puis redécouvrir les grandes réalités de la foi que saint Augustin avait déjà annoncées. C'est vrai, comme le disent les catholiques, Luther n'a rien inventé. Mais bien sûr que non, il n'a rien inventé. Ça va de soi. Il n'a fait que redécouvrir ce qui était dans l'Évangile. C'est vrai que l'Église catholique avait cette doctrine de la justification par la foi, mais elle l'avait enterrée. Officiellement, elle l'avait mise de côté. Mais il y avait des gens qui l'avaient professée. Il y avait les pré-réformateurs. Il y avait eu Lefebvre d'Étaples, il y avait eu Wycliffe, il y avait eu Jean Hus, il y avait eu les Vaudois, il y avait eu les mouvements Lollard et choses semblables, et puis même dans l'Église officielle, il y avait des gens, prêtres, laïcs, qui tout simplement, humblement, sans bruit, sans tapage autour d'eux, avaient professé l'Évangile dans l'essentiel. Avec peut-être des superstitions catholiques de leur temps, mais sur l'essentiel, il y avait ça. Et finalement, le critère de la succession apostolique, il n'est pas juridique. Le critère de la succession apostolique, il est encore une fois la conformité aux enseignements des apôtres, contenus dans le Nouveau Testament. Et là, automatiquement, nous pouvons découvrir, dans les siècles qui nous ont précédés, dans toutes les églises, des gens qui ont maintenu ce dépôt de la foi. À sa manière, jusqu'à un certain point, d'une certaine manière, l'Église catholique a maintenu ce dépôt. L'Église catholique a maintenu la doctrine correcte sur la Trinité. L'Église catholique a maintenu la doctrine correcte sur la divinité du Christ. C'est un dépôt. Il y a là une certaine succession apostolique. C'est ça. Alors, vous voyez que là, déjà, cette notion est extrêmement importante. Et quand nous parlons de retour aux sources, et nous avons raison de le faire, il ne faut pas oublier cette réalité-là. Il y a une continuité historique qui n'est pas une succession de personnes, mais la véritable succession des apôtres est celle qui est en accord avec le témoignage qu'ils ont transmis. Voilà justement le point essentiel. Parce qu'autrement, les catholiques nous coincent automatiquement. Ils disent, mais alors c'est la génération spontanée. C'est ça. Et c'est pourquoi, justement, nous sommes obligés de reconnaître une certaine ecclésialité à l'Église catholique. Alors, il y a une ecclésialité. Ça veut dire que même dans ses déviations, elle a gardé quelque chose de l'Église de Jésus-Christ. Et quelque chose grâce auquel nous subsistons aussi aujourd'hui, d'une certaine manière. Imaginez que l'Église catholique ait disparu pendant tout le Moyen-Âge. Comment est-ce que l'Évangile nous serait parvenu? Luther était moine quand même, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut quand même pas oublier les Bernard de Clairvaux. Il ne faut quand même pas oublier la réforme de Cluny. Il y avait là une tentative d'un retour, n'est-ce pas déjà, au dépôt apostolique. Et là, nous ne pouvons pas faire l'impasse, nous ne pouvons pas dire ça, c'est rien du tout. Et c'est tellement vrai que dans toutes les facultés de théologie protestante, écoles bibliques, évangéliques ou autres, quand on fait l'histoire de l'Église, on commence par étudier l'histoire de l'Église catholique avant d'étudier l'histoire de l'Église protestante. L'Église catholique, si on peut partir de l'Église catholique au début du haut Moyen-Âge, disons, 5e siècle, grosso modo, eh bien, c'est quand même 15 siècles d'histoire. C'est quand même pas pareil. Alors, là se pose un autre problème. C'est justement de la tradition. Ah. Précisément parce que là, si on concède ça à l'Église catholique, dit oui, il y a une certaine apostolicité dans l'Église catholique. Nous ne dirons pas une entière apostolicité, mais une certaine apostolicité. Ça veut dire qu'il y a une continuation historique, certaine, qui fait que l'Église catholique, malgré ses énormes hérésies, a maintenu quand même un certain essentiel de la foi au long des siècles, ce qui pose son ecclésialité et son apostolicité. Alors là, on va nous répondre, oui, mais alors à ce moment-là, c'est parce qu'il y a la tradition. Tout n'était pas dans l'Évangile, il a fallu qu'ensuite la tradition vienne éclairer ce qui était encore en germe, ce qui était encore caché dans l'Écriture. Et là, le professeur Oscar Kuhlmann, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, a alors apporté une démonstration extrêmement pertinente sur ce qu'était la tradition et ce pourquoi, en tant que protestants, nous ne pouvions pas admettre la tradition. Il y a une tradition, et là aussi, je crois qu'il nous faut avoir dépassé une apologétique simpliste qui a été celle du XVIe siècle, du temps des... pas de l'Église qui combattait, quoi, mais qui, quand même, historiquement, n'est pas juste, ni dans les faits. Et là aussi, certaines églises de Pentecôte, en particulier, sont la tendance extrême de ce courant du protestantisme qui nie la tradition. Et l'on entend souvent dire dans les églises pentecôtistes, nous, en tout cas ici, nous n'avons pas de tradition. Et justement, pour mieux prouver qu'on n'a pas de tradition, par exemple, eh bien, certains pasteurs mettront la Sainte Cène un dimanche au début du culte, et la prédication après, puis le dimanche suivant, ils changeront. Ils mettront la prédication avant, et puis la Sainte Cène après. Selon leur fantaisie, comme ça, alors pendant 3-4 dimanches, ce sera comme ça, puis après, ça change. Le but, quand on nous demande pourquoi vous faites ça, c'est pour pas qu'on entre dans une tradition. Et puis vous verrez les braves grand-mères qui s'assiedent toujours à la même place, comme disait Donald G., n'est-ce pas ? Vous verrez la sœur Untel qui commence toujours sa prière, et puis le frère Untel qui va de son petit don spirituel juste après, et puis voilà. Soyons honnêtes. Il y a automatiquement des traditions qui se créent. C'est vrai dans tous les groupes humains, et l'Église est aussi un groupe humain, elle n'échappe pas à cette loi. D'ailleurs, pourquoi ce serait mauvais ? C'est pas obligatoirement mauvais. Il faut bien des structures, il faut bien des points de repère. Alors c'est vrai, il y a une tradition de la réforme. Ah, c'est tellement vrai que vous avez des gens qui ne voudraient en rien déroger, n'est-ce pas, les traditions de la réforme. Vous avez des gens qui pour rien au monde accepteraient de chanter autre chose que les psaumes du XVIe. Même si c'est complètement vieillot, même si c'est complètement dépassé, sa tradition. Alors, bon, il y a tradition. Et encore une fois, tradition n'est pas obligatoirement synonyme de quelque chose de négatif, comme on l'a vu dans le protestantisme. Parce que la tradition, au sens bon du terme, c'est la transmission. Et là, le catholicisme nous dit ceci, vous niez la tradition. Mais l'évangile est tradition. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles, sa tradition. Et l'évangile, qu'est-ce que c'est sinon la tradition des apôtres? Ce que tu as entendu de moi. L'évangile n'a été mis par écrit qu'après un certain temps. Comment l'évangile a-t-il existé au départ? Oralement, donc sous forme de tradition. Et après, cette tradition a été mise par écrit, d'accord. Mais ça existait d'abord oralement. Pourquoi vous, protestants, vous arrêtez-vous au canon du Nouveau Testament, à la fin du premier siècle, et rejetez-vous comme normative la tradition qui est venue ensuite? Il n'y a pas de raison. Vous admettez historiquement que l'évangile a d'abord existé sous forme de tradition. Alors c'est là justement que intervient la grande objection du professeur Kuhlmann. La tradition qui date à partir du IIe siècle jusqu'à nos jours, le professeur Kuhlmann disait « Nous n'avons pas en tant que protestants le droit de la rejeter. » D'abord parce que nous en sommes les héritiers. Que voulez-vous ? Les séparations entre églises, protestantes et autres, c'est une forme de tradition. Nous sommes les héritiers de ça. C'est une histoire. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur l'histoire. Nous ne pouvons pas faire comme si l'histoire n'a pas eu lieu. Nous ne pouvons pas la réécrire. La tradition, c'est la manière dont les hommes, dans un contexte donné, à une époque donnée, dans des circonstances données, ont vécu la foi. La tradition, c'est les cathédrales gothiques. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ces gens-là ont éprouvé le besoin de manifester leur sentiment religieux par un travail gigantesque. On ne peut pas tenir ça pour rien. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire c'est rien. On peut objecter. La tradition, c'est la manière dont se sont organisés un certain nombre de communautés monachiques dans certaines circonstances. Pourquoi des pères sont-ils allés vivre seuls dans le désert? Il y a des explications historiques à ça. Quand nous étudions l'histoire de l'Église, nous étudions la tradition. Alors on peut l'ignorer complètement. Comme certains pentecôtistes, moi l'histoire de l'Église, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du mouvement Pentecôte. Bon, c'est un peu court, quoi. Or, dit Kuhlmann, cette tradition-là, elle est intéressante pour nous. Elle est intéressante parce qu'elle nous permet de voir, justement, comment affronter un certain problème, nos pères ont réagi, bien ou mal. Et ça peut nous aider, nous aussi, pour prendre des décisions dans les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça peut nous aider, ça peut nous éclairer. Avant de décider, si soudain nous nous heurtons à un problème, par exemple le problème, disons le problème d'évangélisation. Bon, on a un problème d'évangélisation aujourd'hui. Peut-être qu'avant de prendre des décisions, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça. on devrait se pencher sur l'histoire de l'Église, puis dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des époques à l'histoire de l'Église où on a eu le même type de problème? Bon, et comment les gens de cette époque-là, les chrétiens de cette époque-là, ont-ils résolu ce genre de problème? Ben, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça, ils ont créé des monastères avec Patrick, qui est venu d'Irlande au 5e siècle, etc. Bon, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Parfois, ils ont fait complètement fausse route. Ils sont allés avec l'épée massacrer les infidèles en Terre Sainte, etc. Bon, ben, c'est pas inintéressant non plus. Ça montre qu'il faut pas faire. Mais pourquoi ça peut pas être sur le même plan que la tradition des apôtres? Ça veut dire l'Écriture sainte. Ah, justement. Là, dit Kuhlmann, il y a quelque chose de fondamental. Oui, l'Évangile a d'abord existé sous forme de tradition orale. C'est vrai, indiscutable. Mais, quand le dernier des apôtres a disparu, ou je dirais, quand le dernier témoin de l'âge apostolique a disparu à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, l'Église du 2e siècle s'est trouvée devant un problème. Il n'y avait plus de garant de la fidélité du dépôt apostolique. Il n'y avait plus de garant. Alors, l'Église du 2e siècle a défini un canon de l'Écriture sainte. Elle a dit maintenant, stop. Nous ne considérerons comme inspiré et par conséquent comme norme de vie, canon en grec, règle à mesurer. Hein? Nous ne considérerons comme norme de vie pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps que les écrits qui sont rassemblés dans ce livre. Parce que ces écrits seuls ont été attestés par l'autorité apostolique de leur vivant. Et alors, l'Église du IIe siècle met à part un certain nombre d'écrits comme règle à mesurer, à la lumière de laquelle elle va accepter d'être jugée. Et à la lumière de laquelle elle va accepter que toutes les églises soient jugées, que sa tradition ultérieure soit jugée. Elle met, en posant un canon, dit Oscar Kuhlmann, l'église du IIe siècle montre clairement qu'elle ne met pas sur le même plan la tradition pré-apostolique, la tradition apostolique et la tradition post-apostolique. Ça veut dire que l'Église du IIe siècle dit « les écrits des pères de l'Église ». Intéressant. Mais pas normatif. C'est pour un lieu ou pour un temps. Elle a bien fait. Parce que les écrits des pères de l'Église, dans lesquels il y a des choses qui sont intéressantes, oui, c'est vrai, discutablement. Or, c'est pas ma lecture de chevet, hein. Mais enfin, non, c'est pas inintéressant, mais des énormités. Tout est teinté de philosophie grecque. Bon, ça passe plus aujourd'hui. La philosophie grecque, qui s'en souvient encore aujourd'hui, hein. Le sexe des anges des Byzantins, hein. C'est ça, hein. Et l'Église du IIe siècle a eu cette clairvoyance de dire non. Alors intéressant pour consulter, mais pas comme norme de vie. L'existence du canon des Écritures montre que l'Église des premiers siècles a mis ces écrits-là sur un autre plan que ceux qui pouvaient venir ensuite. Si je peux prendre, si vous voulez, toute proportion gardée, je dirais que c'est la même chose, enfin la même chose, je dis, attention, toute proportion gardée, hein, c'est très approximatif ce que je veux dire, que par exemple les prophéties que nous recevons aujourd'hui, dans la vie de l'esprit. Il est bien évident qu'une prophétie qui nous serait donnée, ce serait absolument inadmissible de considérer cette prophétie, si vous voulez, sur le même plan que les prophéties de l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'elles sont moins inspirées ? Non, non, ça n'a rien à voir. Peut-être bien qu'une prophétie que nous allons recevoir par l'Esprit de Dieu est tout aussi inspirée que l'était inspirée Isaïe ou bien Paul. Ça peut être. Pourquoi n'aura-t-elle pas la même valeur ? Parce que tout est dit dans l'Écriture. Elle va avoir cette prophétie valeur importante pour nous. Prenons par exemple un exemple. Si une prophétie nous dit, voilà ce que vous devez faire, vous, aujourd'hui, ici, qui êtes à Vannes. Bon, formidable, intéressant, formidablement intéressant pour nous. Pour ceux qui sont à Tombouctou ou ceux qui sont à Singapour, zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas nos problèmes. Et nous de même. Si les frères de Singapour reçoivent une prophétie qui leur dit « Vous devez construire une église comme ci et comme ça et aller ouvrir tel champ de mission à tel endroit », vous comprenez tout de suite que ça ne nous concerne pas. Si vous voulez, la tradition, au sens noble du terme, c'est circonstancié. C'est limité dans l'espace et c'est limité dans le temps. La tradition apostolique, l'Écriture, elle est illimitée, elle est pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux, tandis que la tradition, elle est pour l'Église d'un temps et d'un lieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera absolument inutile. Car si, par exemple, des frères de Singapour que je rencontre par hasard me disent « Tiens, justement, le Seigneur nous a parlé, nous a dit qu'il fallait qu'on ouvre tel champ missionnaire à tel endroit. » Ah, ben, je dis « C'est intéressant, d'abord, parce que ça me permet de prier pour mes frères. » Puis, deuxièmement, je me dis bah, « Tiens, le Seigneur a l'intention de faire quelque chose là-bas. Je peux en tirer des conclusions, éventuellement, pour moi. » Vous comprenez ? Et c'est la même chose quand j'étudie, par exemple, les pères de l'Église. Ça, bien sûr, ils avaient leurs problèmes. Le monophysisme, le docétisme, toutes ces choses-là, c'était leur problème. Hein. C'est sûr, pour eux, c'était des problèmes graves. Hein. Qui se souvient aujourd'hui du docétisme hein. Je ne sais pas si je demande à n'importe quel d'entre vous. On a pourtant étudié ça, mais c'est loin. Hein. Mais ça peut m'intéresser. Je dis, tiens, voilà, ces gens-là, ils ont eu ces problèmes. Ça les a amenés à réfléchir sur tel sujet théologique. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je ne lis pas ça comme je lis l'Écriture, vous comprenez ? L'Écriture dans laquelle Dieu me parle dans mon aujourd'hui. Et dont je sais fort bien que la même Écriture va parler à mes frères de Singapour ou mes frères de Tombouctou. Et dont je sais fort bien que cette même Écriture a parlé à mes frères du 1er siècle, à mes frères du 2e, du 10e, du 5e, et qui, si le Seigneur tarde, parlera encore aux générations qui nous succéderont. Ouais, c'est très différent. Alors voilà, si vous voulez, comment se pose ce problème de la tradition. De la tradition, justement, aujourd'hui, dans l'Église. Établir un canon, c'est renoncer à une tradition comme norme. Hein. Et dès que les textes sont rassemblés dans le canon, ils sont suffisants. Et l'Église refuse d'être sa propre norme, ça c'est très important. L'Église reconnaît qu'elle n'est pas maîtresse de l'Écriture, mais qu'elle doit se laisser juger par l'Écriture. Or, quand on pose une tradition qui reste normative, ça veut dire qu'on se pose comme maître de l'Écriture. Et c'est la vision catholique. L'Écriture ne peut être lue qu'en Église, car c'est l'Église seule qui en donne l'interprétation exacte. Or, l'idée d'un canon annule cette vision, cette prétention-là, automatiquement. Autrement, alors, il aurait fallu un canon illimité auquel on aurait ajouté les pères de l'Église, on aurait ajouté aujourd'hui le BEM, ce qui d'ailleurs on peut nous faire admettre. Hein. Voilà, donc si vous voulez, ici vous voyez les problèmes énormes de l'ecclésiologie aujourd'hui. Hein. À la fois donc dans ce problème de l'apostolicité, où c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut admettre, et la tradition. Là aussi, il faut nuancer un peu, mais où nous aurons certainement, bien sûr, une réponse beaucoup plus négative. Hein, beaucoup plus négative.